Bonjour les amis. Bonjour les amis. Ah, ça me fait plaisir. Ce matin, il faut que je m'excuse, enfin que je vous présente mes excuses. Je suis parti de la maison et j'avais oublié mes notes. Voilà. Raymond qui est là, Raymond Chauvin, vous avez Raymond Chauvin ce matin avec vous. Hein. C'est un des baptistes historiques. Alors il faudra lui faire un accueil. Hein. Je ne sais pas où il est là, Raymond, je ne le vois pas. Raymond me disait qu'il avait perdu sa tête. Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, je suis comme toi. Voilà, vraiment ce matin, c'était un peu compliqué. Hier, j'ai appelé Pierre dans la détresse. J'avais une grosse toux. Puis on m'a dit, t'en fais pas, prends du thym et du... tout ce que je trouve. Non, il dit ça, mais il m'a donné un truc excellent et ça va mieux. Voilà. Donc quand vous avez un problème de santé, voyez Pierre. D'accord. Voilà. Bien. Je voudrais quand même, au nom de l'Église de Lunel, vous remercier pour ce que vous avez fait pendant ces quelques années du ministère de Pablo et Patricia. Votre soutien a été précieux et donc au nom de l'Église, nous voulons vous dire un grand merci. Il quitte Lunel à la fin du mois d'août. Enfin, ils ont déjà quitté, ils sont en vacances au Brésil, là. Et voilà, donc, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Peut-être que nous viendrons de temps en temps solliciter quelques prédicateurs, en ces temps qui seront un peu de disette pour nous, mais le Seigneur pourvoira toutes choses. Voilà. Je vais commencer ma prédication. J'avais pensé, comme il faisait très chaud, vous parler d'un sujet rafraîchissant. La fournaise des trois amis de Daniel. Alors Pierre, qui est un gentil garçon, va, pour éviter de fatiguer ma voix, lire quelques passages dans Daniel 3, ce beau récit de la fournaise.
Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressé le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors le roi fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal, et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Merci, merci beaucoup. La lecture était un peu longue, mais quelle belle histoire de la Bible, encore une belle histoire. Mais d'emblée, nous avons à affronter un problème. Le fait miraculeux. À cause de cela, certains diront que nous avons affaire à une légende, au mieux à une allégorie. Ce serait en quelque sorte une belle histoire qui finit bien, dont la morale serait une belle morale. La confiance est toujours récompensée. Ou bien la jalousie est un vilain défaut et les jaloux sont toujours punis. Mes chers amis, si c'était le cas, si c'était une légende, une allégorie ou un mythe ou tout ce que vous voulez ou une fable, quel impact aurait l'exemple de ces héros légendaires pour nous aujourd'hui ? Tout simplement celui qu'avait l'histoire du petit poussé ou de Cendrillon sur mon esprit d'enfant lorsque ma mère me racontait ces belles histoires. Elle avait du talent pour ça. De belles histoires avec de belles morales. Ce qui n'est pas rien, reconnaissons-le. Mais est-ce là le but de la parole de Dieu ? Néanmoins, la question reste entière. Qu'est-ce que cette histoire extraordinaire, fabuleuse, peut m'apporter à moi, croyant occidental de ce XXe siècle rationnel, logique et toujours matérialiste ? Je vis dans un pays où la liberté de conscience est inscrite dans la Constitution. Comment puis-je m'identifier à des jeunes gens persécutés pour leur foi et qui envisagent l'épreuve avec une telle sérénité? Il faut bien le reconnaître, ce sont de super croyants et j'ai énormément de mal à me retrouver dans leur expérience. Ce sont des hommes exceptionnels, ce sont des héros de la foi. Comment moi, simple croyant, puis-je m'y retrouver? Comment cette histoire de héros de la foi peut-elle être parole de Dieu pour moi, aujourd'hui, croyant occidental, je souligne cela. Peut-être pour cela, il faudrait regarder de plus près. D'abord, affirmons-le, ces hommes-là ne sont pas des héros légendaires. Comme dit Jacques d'Élie, le prophète, ce sont des hommes de la même nature que nous. Jacques dit cela d'Élie, du grand Élie, pour que les gens arrêtent de fantasmer sur ce grand prophète. Remarquez que quelquefois, c'est bien commode, ce genre de fantasme. Quel homme exceptionnel c'était ! Extraordinaire ! Je voudrais bien être comme eux, mais... Et cela aboutit à nous désengager, à ne pas nous mouiller, comme on dit, si vous permettez l'expression, à ne pas prendre de risques pour Dieu. Non, Élie n'était pas un surhomme, Daniel et ses compagnons ne sont pas des surhommes, ils sont de la même nature que nous. À partir de là, leur histoire de croyants a quelque chose à nous dire et à nous apprendre, à nous, qui comme eux, sommes des croyants, de simples croyants, ni plus ni moins. Regardons donc de plus près et voyons comment ces trois amis en sont arrivés à être confrontés à cette épreuve. Ont-ils choisi délibérément de provoquer le despote idolâtre dans le but d'être reconnus comme des champions de Dieu ? Non. Non, ils sont victimes tout simplement de la jalousie d'astrologues chaldéens qui voient leur influence à eux diminuer auprès du roi, grignotée par ces étrangers, et ils les dénoncent donc au roi par jalousie. Et ils les accusent d'être à la fois désobéissants et ingrats. Est-ce qu'ils étaient obligés d'agir comme ils ont agi ? Eh bien, je dirais oui, car leur souci est de rester fidèles à l'Éternel. Ils veulent rester fidèles à l'Éternel. Ils cherchent à provoquer personne, surtout pas le despote. Mais ils veulent rester fermes dans leur détermination. Et ils disent au roi, vous l'avez entendu, que notre Dieu nous délivre ou pas, sache au roi que nous n'adorerons pas tes dieux. Il ne faut surtout pas nous imaginer que ces trois amis partaient, comment dirais-je, allègrement vers le martyre. Ce ne sont pas des fanatiques, pas du tout. Ils ont dû compter la dépense et le prix à payer pour rester fidèles à leur Dieu. Ils savent que ce prix est très élevé. De plus, les trois jeunes gens ne peuvent rien dire pour leur défense. Ils sont effectivement coupables d'avoir désobéi à l'ordre du roi. Et la réponse qu'ils font n'est ni provocante ni irrespectueuse. Ils savent que Dieu peut intervenir. Mais quoi qu'ils fassent, eux sont déterminés à lui rester fidèles. Quelle que soit l'issue de ces événements, quel que soit leur sort à eux, ils veulent rester fidèles à leur Dieu. Leur réponse montre qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à assumer leur décision et leur fidélité, même si Dieu n'agit pas pour les délivrer de la fournaise. On peut se demander pourquoi une telle détermination. Je crois que la réponse se tient en deux mots. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Connaissance et confiance. Ils savent en qui ils ont cru. Ils savent en qui ils mettent leur confiance. Et je pense que nous avons ici deux belles leçons pour nous aujourd'hui. Comment connaissons-nous Dieu et comment lui faisons-nous confiance ? Voyons d'abord comment connaissons-nous Dieu ? Comment connaissons-nous celui que nous appelons notre Père ? Quel est ce Dieu en qui nous croyons ? Vaste question, très vaste question. Toute l'éternité ne suffira pas à y répondre. Et vous savez, les trois amis sont comme nous. Ils sont loin, très loin de connaître celui qui est l'inconnaissable. Mais il y a une chose qu'ils savent, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Qu'ils sont dans sa main et qu'il est riche en bonté et en miséricorde. Ils ont une notion de la grandeur et de la sainteté et de la souveraineté de Dieu que nous avons peut-être perdue aujourd'hui dans nos pays occidentaux. L'homme du XXe siècle se croit encore, je dis encore parce que le dérèglement climatique est en train de travailler quand même dans la tête de quelques-uns, il se croit encore maître de son destin. Je parle ici, bien entendu, de l'occidental, celui qui a pour maître, entre autres, l'argent, la science, etc. L'idée même de Dieu, dans nos sociétés occidentales, l'idée même de Dieu est ringarde, ou romantique, au mieux. C'est bon pour les faibles, les incultes, les rêveurs, ou encore les fanatiques. Dieu est tenu à distance quand il n'est pas tout simplement nié. L'humain est devenu le centre. Et c'est le triomphe de l'individualisme, chers amis. Je pense que c'est un des mal de notre époque, l'individualisme. Moi. Moi et Dieu, mais Dieu après. Malheureusement, la pensée chrétienne, je pense, a été profondément troublée par le scepticisme et l'individualisme ambiant. Peut-être que le monde chrétien, et les églises donc, et nous donc, peut-être que nous nous sommes fabriqués un Dieu à notre convenance. Il y a dans l'Épître aux Romains une magnifique affirmation. « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Marie-Lise et moi, nous sommes très attachés à ce verset. Je ne vous dis pas pourquoi. Romains 8, 28. « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Super ! Nous qui aimons Dieu, pas de problème, pas de souci, pas d'épreuve. Ou s'il y en a, Dieu délivre. Dieu délivre. Et nous avons raison de dire que Dieu délivre. Pourtant, Dieu ne délivre pas toujours. Du moins, de la manière dont nous l'attendons. Vous savez, Étienne qui aime le Seigneur de tout son cœur, Étienne est lapidé. Dieu n'est pas intervenu. Et les héros de la foi, relisez le chapitre 11, hein, ceux qui ont subi l'écartèlement, qui ont refusé la délivrance pour aboutir à une meilleure résurrection, d'autres qui ont été moqués, qui ont été fouettés, qui ont été sciés, qui ont été tués, qu'on a mis en prison, d'autres ont été lapidés, etc., etc. Ils ont eu une vie errante. Voilà. Tout cela, ils aimaient Dieu. Pour tout cela, toutes choses concourent ensemble à leur bien. Pourtant, Dieu n'est pas intervenu. Et que dire de tous les témoins qui, depuis 2000 ans, et aujourd'hui encore dans bien des pays, souffrent la persécution et affirment leur confiance en Dieu dans la souffrance, dans les privations, dans les mauvais traitements, dans la torture, dans la mort. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Dieu n'est pas intervenu, forcément. Et chers amis, que dire du Christ sur la croix ? Que dire du Christ sur la croix ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, et qui connaît ses pensées ? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur ? Ou bien qui a été son conseiller ? Ou encore qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire éternellement. C'est cette notion-là de Dieu qu'ont les trois amis de Daniel. Est-elle aussi la nôtre ? C'est une question que je laisse en suspens dans chacun de nos cœurs. Pardon. J'arrive à ma deuxième question. Comment faisons-nous confiance à ce Dieu en qui nous croyons ? Heureusement, nous, comme je disais tout à l'heure, nous vivons dans un pays où il n'y a pas de persécution par rapport à notre foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un journaliste qui est venu et qui nous a exhortés à prendre les armes contre ceux qui persécutent les chrétiens. Et je me souviens que quelqu'un lui a répondu, mais nous, nous avons à répondre non pas par les armes, mais par l'amour. Quelle belle réponse. Quelle belle réponse. Mais nous ne sommes pas confrontés à ces situations-là, aussi dramatiques en tout cas que celles de nos trois amis. Mais est-ce que nous sommes prêts, dans nos choix de vie importants, ou dans les choix de vie plus anodins, à prendre le parti de Dieu, à prendre parti pour Dieu, pas à prendre les armes pour Dieu, ou alors les armes d'Éphésiens 6, et surtout l'arme essentielle, l'amour. Sommes-nous prêts à prendre parti pour Dieu, à servir Dieu en premier ? Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans les petites choses de la vie, nous ne sommes pas des héros légendaires, nous ne sommes pas des héros de la foi, en tout cas moi, vous, je ne sais pas, mais moi non. Mais dans les petites choses de la vie, j'ai aussi à affirmer que je suis fidèlement attaché au Seigneur. Est-ce que la crainte d'un prix à payer élevé ne me pousse pas à accepter des compromis peu glorieux pour le Dieu que je prétends aimer? Est-ce que quelquefois je ne me montre pas calculateur, indéterminé, irrésolu, doutant de la bonté de Dieu et de sa puissance lorsque je suis confronté à l'épreuve et qu'elle dure et qu'elle est dure? Combien de fois n'ai-je pas perdu courage et n'ai-je pas douté de Dieu? Nous savons que Dieu peut nous délivrer, c'est vrai, ça nous le savons. Mais la question est, le fera-t-il? La question est, le fera-t-il? S'il ne le fait pas, s'il n'intervient pas, nous sommes déstabilisés. Mais que fait Dieu? Ne voit-il pas que nous souffrons? Ne voit-il pas que nous sommes dans une situation extrêmement difficile? Seigneur, je suis là tout seul, au pied du mur, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour agir? Nous avons prié aussi depuis longtemps pour des gens qui nous sont chers. Et Dieu a l'air de ne pas répondre. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et s'il ne répond pas comme je le souhaite, ma confiance s'étiole. Elle devient peau de chagrin. Alors je voudrais faire ici une petite remarque. Il faut être honnête, j'ai constaté que ce n'est pas le malheur des autres qui remet en cause ma confiance en Dieu. Non, ce sont mes propres épreuves, celles qui me touchent. Bizarre, non? J'en arrive à ce constat. Ma confiance en Dieu repose plus sur ce que je ressens, sur mes sentiments fluctuants selon les circonstances de ma vie. Elle repose plus sur mes sentiments que sur ma connaissance de Dieu. Et ai-je besoin de préciser que cette connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement une connaissance livresque, c'est une connaissance de relation. Je dirais que c'est une connaissance de fréquentation. Avant, lorsque deux jeunes gens allaient se marier, lorsqu'ils étaient fiancés, on disait « ils se fréquentent ». Eh bien, il faudrait que nous fréquentions Dieu de cette manière-là, en l'aimant de tout notre cœur, en ayant une relation avec lui. C'est ainsi que notre connaissance de Dieu augmenterait. Dans cette magnifique prière sacerdotale, Jésus, s'adressant au Père, dit une prière, une parole que nous devrions méditer tous les jours. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je conclus. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous fonctionnons aussi avec le ressenti. Il le sait. Je suis comme ça. Je pense que vous êtes un peu comme moi. C'est pour cela que dans sa grande bonté, il nous donne des signes positifs de sa présence dans nos vies. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune chrétien, et j'étais au début de ma vie chrétienne, en proie au doute, hein, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là, d'aller dans cette église où il n'y a que des gens, des bénis oui-oui, ou des trucs comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je repensais, je me remémorais la manière dont le Seigneur m'avait saisi. Ça avait été pour moi une espèce d'éclatement. Voilà, j'ai dû raconter ma conversion à quelques-uns une fois ou l'autre, mais ça avait été une expérience très très forte. Dieu savait que j'avais besoin de ça. Dieu savait que j'avais besoin qu'il me mette le nez sur les choses. Et c'est pour cela que dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il nous donne des signes positifs de sa présence dans nos vies. Savons-nous les reconnaître? Savons-nous les discerner? Savons-nous les voir? Et alors, à notre tour, savons-nous l'honorer, ce Dieu que nous l'aimons? Savons-nous lui donner une marque de confiance, quoi qu'il juge bon de faire? Comme c'est difficile. Quoi qu'il juge bon de faire, toutes choses concourent ensemble au bien de ce qui aime Dieu. Lui porter une marque de confiance et l'honorer, c'est ne pas perdre courage lorsque nous ne voyons rien venir. Lui montrer une marque de confiance et l'honorer, c'est nous engager. Lorsque cela est nécessaire, nous engager dans une action ou dans une prise de position qui le glorifiera. C'est cela l'honorer. C'est cela lui marquer notre confiance. Et marquer notre confiance, c'est aussi continuer à avancer avec lui, malgré la crainte, malgré le prix quelquefois élevé à payer. Enfin, lui montrer une marque de confiance, c'est tout simplement croire objectivement ce qu'il nous dit dans sa parole. Et que dit-il dans sa parole? Ah là là, ça y est, il est reparti pour demi-heure. Non, je résume. Que dit-il dans sa parole? Il dit qu'il nous aime. Voilà une révélation extraordinaire. Et c'est cela qui m'a fait plier le genou devant le Seigneur. La personne qui m'a amené, je dirais à la foi, m'a posé cette question. Elle m'a dit, tu peux lire tous les livres que tu veux, dans la Bible seulement, tu trouveras la révélation de l'amour de Dieu. Il dit qu'il nous aime, il dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Toujours chapitre 8 de Romains. Alors, chers amis, sommes-nous prêts à lui faire confiance malgré tout? Malgré les circonstances adverses que nous traversons, peut-être en ce moment, certains d'entre nous sont, toute proportion gardée, un peu dans cette fournaise. Alors, souvenons-nous qu'il a donné Jésus pour nous. Souvenons-nous qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il ne s'est pas contenté d'être sur son trône. Dieu était en Christ. Quel mystère incroyable! Il est venu en Jésus-Christ pour nous prouver son amour. Alors que cette histoire véridique et non légendaire de ces trois jeunes croyants de la même nature que nous puisse nous aider à affirmer notre confiance en Dieu, quelles que soient nos circonstances. C'est ainsi, chers amis, que nous le glorifierons. Car le Seigneur l'a voulu ainsi, il tire sa gloire de l'Église. Cette Église par laquelle les autorités et les puissances célestes voient la sagesse infiniment variée de Dieu manifestée par l'amour qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Je vous cite comme ça ce texte d'Éphésiens, excusez-moi, je devrais le lire et pas l'abîmer comme je fais, parce que ma mémoire... Voilà, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui et à lui seul soit la gloire, dans l'Église et dans nos cœurs. Amen.